Nous allons commencer une série dans les semaines à venir. Nous allons étudier cette lettre ensemble. Paul était le 13e des 12 apôtres, si on peut le dire ainsi. Et un apôtre, c'était un envoyé, c'était une porte-parole de Jésus-Christ. Ils avaient la mission de sillonner le monde entier, le monde habité de l'époque, en parlant de Jésus. Et puis, avec des gens qui croyaient en Jésus, ils les regroupaient, ils les mettaient ensemble dans des églises pour vivre leur foi ensemble. C'est pour ça qu'une bonne partie du Nouveau Testament est composée des lettres que Paul a envoyées à des églises, des jeunes chrétiennes, sur la manière de vivre leur foi. Alors, en ce début d'année, avec ce baptême tout frais dans notre esprit, j'aimerais voir les vœux que Paul formule pour ces chrétiens colossiens dans son introduction. Alors, lisons ensemble. Les versets peuvent s'afficher sur le mur, ou encore mieux, vous avez une Bible devant vos yeux. Mais vous pouvez suivre avec moi Colossiens chapitre 1, versets 1 à 14. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits. Et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients, en rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, dans ces versets, nous avons les prières de Paul. Finalement, ce sont ses vœux pour les Colossiens. Et s'il fallait résumer ces vœux de Paul pour cette église, on peut dire que ces vœux concernent la croissance. On regarde les deux versets clés dans ce chapitre. D'abord, verset 6, Paul réjouit de ce que l'évangile porte des fruits et s'accroît. Il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est le cas parmi vous. Et puis on trouve à peu près la même expression, verset 10, où c'est sa prière pour les Colossiens, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, deux versets qui parlent de la croissance, de porter des fruits. Et c'est un peu l'image d'un arbre qui grandit, ses branches grandissent, qui porte de plus en plus de fruits. Mais si un arbre grandit et porte de plus en plus de fruits, ça veut dire aussi que ses racines, peut-être plutôt invisibles, mais ses racines aussi grandissent et s'approfondissent pour rendre l'arbre plus fructueux, pour mieux nourrir les branches, pour le rendre plus solide. Et c'est ce que nous voulons pour notre assemblée aussi, pour chacun de nous, pour Jean-Philippe, mais pour nous tous, que nous puissions porter du fruit, mais aussi que nos racines grandissent en Christ. Si nous voulons porter du fruit cette année, il nous faut des bonnes racines. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble ce matin avec Paul. Nous voulons tout d'abord célébrer la croissance de l'évangile dans le monde. Et ensuite, nous voulons souhaiter la croissance spirituelle pour chacun de nous, notre vie personnelle. Donc c'est un peu les branches qui s'étalent et puis les racines qui se creusent. Aussi, je peux prendre une illustration qui n'existait peut-être pas à l'époque de Paul, mais dans le monde du foot, puisque je sais qu'il y a des amateurs ici ce matin. Si nous voulons remporter de plus en plus de victoires, eh bien, il faut que chaque joueur améliore son jeu et revienne au fondement aussi pour mieux jouer. Donc ça, c'est ce que nous allons voir dans ces vœux, dans ces prières de Paul ce matin. Tout d'abord, j'aimerais avec vous célébrer la croissance de l'Évangile dans le monde. Voilà les premiers versets, versets 3 à 8, où Paul célèbre, il rend grâce à Dieu pour le progrès de l'Évangile dans le monde. Alors, il faut savoir que cette église à Colosse est déjà une deuxième génération d'églises. Ce n'est pas une église que Paul a commencé lui-même, c'est pas une église que Paul, dont Paul a rendu visite, il connaît pas ses Colossiens. Paul avait commencé une église à Éphèse, une ville d'Éphèse qui est à 150 kilomètres de Colosse. Et puis, on apprend dans ces versets, on a quelques éléments historiques. Il semble qu'il y avait un homme qui s'appelle Épaphras, vous voyez, en verset 7, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Épaphras, en fait, il s'est trouvé à Éphèse, où Paul annonçait l'évangile, formait des chrétiens. Et Épaphras s'est converti. Et puis, il est revenu dans sa ville natale, il est revenu à Colosse. Et lui, il a parlé autour de lui de Jésus, et il a commencé une église à Colosse. C'est un peu comme si Paul avait commencé une église à Bordeaux et qu'un Toulousain se trouve à Bordeaux en stage professionnel, mais qui rencontre Paul, il découvre Jésus-Christ, il s'affirme dans sa foi et puis il revient à Toulouse, il en parle à ses amis et avec ses amis, il lance une église. Voilà ce que Épaphras a fait à Colosse par rapport à Éphèse. Et maintenant, Épaphras est avec Paul. Il n'est pas à Colosse, il était avec Paul, on pense qu'ils sont à Rome. Paul est en prison, mais il est avec Épaphras et Épaphras a pu l'informer de tout ce qui s'est fait à Colosse. Paul dit en verset 4, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée. Donc, Paul se réjouit, il célèbre le fait que voilà, cet évangile, qu'il appelle aussi la parole de la vérité, ou bien le message de la grâce de Dieu, ce message a été entendu, cru, reçu par les Colossiens, et cet évangile est en train de porter des fruits à Colosse. Et il dit même, non seulement à Colosse, mais dans le monde entier, dans plein de villes, dans le monde entier, cet évangile est en train de connaître une croissance. Et Paul se réjouit de cette croissance, de savoir qu'il y a des nouveaux chrétiens et des nouvelles églises, il dit dans le monde entier. Alors quand il dit le monde entier, c'était le monde entier de l'époque, le monde habité de l'époque, notamment l'Empire romain. Et j'aimerais m'arrêter un peu et méditer sur ce fait qu'il y avait cette croissance des chrétiens, des églises chrétiennes, dans ce monde romain de l'époque. C'est une réalité historique que le christianisme a connu une croissance impressionnante dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Récemment, je suis tombé sur un livre écrit par un prof d'histoire à l'université d'Edimbourg en Écosse. Il s'appelle Larry Hurtado. Et il a écrit un livre, c'est un spécialiste des recherches de ces premiers siècles et du Nouveau Testament. Et le titre de son livre, c'est « Pourquoi diable quelqu'un devient-il chrétien dans les trois premiers siècles après Jésus-Christ ?» C'est un drôle de titre, mais ça c'est son livre. « Pourquoi diable quelqu'un deviendrait-il chrétien dans les trois premiers siècles après Jésus-Christ ?» Parce qu'il étudie les mœurs et les cultures de l'époque et l'Empire romain de l'époque. Et il montre dans son livre que, effectivement, la foi chrétienne est une démarche vraiment contre-courant par rapport à la culture autour. Il dit « La dévotion aux multiples dieux païens était tellement et partout inscrite dans la vision du monde et de la pratique de l'Empire romain que devenir chrétien, c'était un choix radical. Devenir chrétien, c'était un handicap social, un handicap politique, un handicap professionnel. » Souvent, on se mettait la famille à dos. Souvent, on pouvait même finir en prison, comme c'était le cas de l'apôtre Paul. Les Romains, l'Empire romain et les Grecs, ils aimaient bien les divinités, ils aimaient bien les idoles, ils aimaient bien les nouveaux dieux. Donc, si quelqu'un disait à son collègue, « J'ai trouvé un nouveau dieu, il s'appelle Jésus, je l'ajoute au panthéon, à tous mes dieux existants, ça pose aucun problème. » Mais les chrétiens disaient, non, j'ai rencontré Jésus-Christ, maintenant je l'adore lui seul, il est le seul dieu, et j'arrête tous ces autres dieux et tous ces autres idoles. Et ça, c'était choquant, ça, c'était problème. Et là, ils étaient pénalisés de dire, Jésus-Christ est le seul Seigneur. Donc, à l'époque, il fallait être très, très motivé d'accepter ce message nouveau. Alors, ce professeur se demande, alors pourquoi le faisait-il? Pourquoi tant l'ont fait? Parce que c'est un fait avéré que l'église chrétienne a connu une grande croissance dans cet empire romain, plutôt hostile à la foi. Alors, comment l'expliquer? Et selon ce prof, il donne deux raisons. La première, il dit, c'est que ils annonçaient, ils ont découvert un message qui parlait d'un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui prend soin des individus, qui s'intéresse à leur vie. Et ça, c'était une idée radicalement nouvelle pour le monde de l'époque. Un Dieu d'amour, ils connaissaient la mythologie grecque, mais tous ces dieux, c'était pas des dieux d'amour qui s'intéressaient, il fallait plutôt les apaiser, il fallait avoir peur de leur puissance, mais un Dieu d'amour qui s'intéresse à notre vie et qui nous marque par son amour et qui nous pousse à aimer les uns les autres, ça c'était un bouleversement dans la société. Donc il dit ça, c'est la première raison, c'est qu'ils entendaient parler d'un Dieu d'amour. Et puis la deuxième chose, il dit, c'était l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection. Avec comme preuve la résurrection de Jésus-Christ, cette vérité historique, c'est pour ça que Paul peut parler de la parole de la vérité, c'était une vérité que les apôtres attestaient, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et sa résurrection nous offre notre résurrection. Et ça aussi, c'était une idée très nouvelle que le monde ne connaissait pas. Donc, rencontrer un Dieu d'amour, vivre avec un Dieu d'amour, avoir une relation avec un Dieu d'amour, et puis avoir cette espérance réservée dans les cieux, une espérance au-delà de cette vie garantie par une résurrection, ça, c'était deux choses précieuses. Et finalement, devenir chrétien valait la peine, même si on perdait à côté, on gagnait bien plus, d'après ce prof d'histoire. Et je trouve intéressant, c'est justement ces choses dont Paul parle, dont Paul célèbre à Colosse, ces choses qui vont avec la foi en Jésus, c'est l'amour et l'espérance. L'amour et l'espérance, souvent les trois, le Nouveau Testament parle souvent la foi, mais la foi chrétienne est accompagnée d'amour et d'espérance. Et je pense que c'est ce qui aussi explique la croissance de l'évangile aujourd'hui. Dans notre monde occidental, notre monde européen, qui se dit plutôt athée, qui pense avoir tourné la page par rapport à la foi, et pourtant, l'évangile porte encore des fruits. Vous en êtes témoin ce matin. À notre époque scientifique, c'est vrai que la foi peut sembler une démarche un peu bizarre. Peut-être vous dites ce matin, qu'est-ce qui pousse un jeune homme comme Jean-Philippe, qui a l'air plutôt normal, de faire ce qu'il vient de faire? Peut-être ça vous intrigue. Mais si vous voulez vivre l'amour, si vous voulez vivre l'espérance, je pense que beaucoup ici pensent que ce sont des bonnes idées, l'amour et l'espérance. Ce sont des valeurs que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez vivre l'amour et l'espérance, dites-vous bien que la matière laissée au hasard, c'est pas la matière qui peut les produire. À notre époque très scientifique, où beaucoup de science, qu'est-ce qui pousse les gens à vivre dans l'amour et dans l'espérance? Quelqu'un l'a exprimé ainsi. L'homme descend du singe, donc aimons-nous les uns les autres. Mais c'est pas logique. Vous le voyez bien, c'est pas logique. L'homme descend du singe dans la survie du plus fort, donc aimons-nous les uns les autres. Et pourtant, on sait qu'il faut s'aimer les uns les autres. On veut s'aimer les uns les autres. Mais d'où vient que ça nous interpelle? Eh bien, si vous trouvez que l'amour et l'espérance sont des idées souhaitables, si vous trouvez que c'est une bonne idée que les forts prennent soin des faibles dans la société, si vous trouvez une bonne idée les droits de l'homme, où chaque individu a une dignité qu'il faut respecter et chacun mérite d'être aimé pour ce qu'il est, si vous voulez espérer un meilleur monde, un avenir heureux, eh bien, sachez que c'est grâce aux racines chrétiennes que vous pensez ces choses. Et dans ce cas, même si vous n'êtes pas chrétien, vous devriez souhaiter la croissance de l'évangile, la croissance de l'église chrétienne dans le monde, qui a tant souvent apporté amour et espérance dans des vies. Alors c'est vrai, nous chrétiens, il faut reconnaître que nous n'avons pas toujours vécu en cohérence avec notre propre foi. C'est vrai que notre foi, la foi en Jésus-Christ qui nous a aimés, devrait nous porter à l'amour et à l'espérance de cette vie joyeuse. Et des fois, nous n'avons pas toujours agi comme ça, mais reconnaissant que c'est illogique de notre part. Tout comme c'est illogique pour les non-chrétiens de dire « L'homme descend du singe, donc aimons-nous les uns les autres », c'est illogique de notre part de dire « Dieu m'a aimé, mais je ne vais pas aimer mes frères et mes sœurs ». Ça aussi, c'est détacher la branche de la racine. Et ça peut pénaliser le témoignage des chrétiens, ralentir le progrès du christianisme. Et malheureusement, c'était souvent le cas. Les chrétiens qui ne vivaient pas en accord avec leur propre fondement, leurs propres valeurs, a parfois freiné ou ralenti le progrès de l'évangile. Donc, pour célébrer la croissance de l'évangile dans le monde, pour le vouloir, il va falloir aussi avec Paul souhaiter la croissance spirituelle personnelle dans chacun de nos vies, dans notre vie personnelle. Et j'aimerais parler maintenant de cette deuxième dimension de la croissance que Paul souhaite pour cette église. Cette fois-ci, la croissance n'est pas géographique ou numérique, comme dans les premiers versets, mais cette croissance qu'il veut pour cette église est personnelle, individuelle. C'est cet enracinement dans la foi qui devient un sujet majeur de cette épître. Et vous voyez dans les versets 9 à 14 maintenant, c'est le sujet. Alors dans ces versets, nous avons une de ces fameuses phrases de l'apôtre Paul où il enchaîne les idées. C'est très dense. Il faut s'accrocher pour arriver toujours concentré jusqu'à la fin de la phrase parce que c'est une seule phrase et avec beaucoup de virgules. Et dans le grec, les virgules n'existaient même pas. Alors, il fallait s'accrocher d'autant plus. Mais on va essayer ce matin de la décortiquer, ce souhait, ce vœu, cette prière pour les Colossiens, pour qu'ils connaissent une croissance personnelle. Donc, dans le verset 9, il dit « C'est pour cela ». Donc, puisqu'il veut célébrer la croissance de l'évangile dans le monde, puisqu'il veut que cette croissance continue, il dit, c'est pour cela que nous, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc tout ça, ce qui suit, c'est une prière, c'est les vœux de Paul pour ses Colossiens. Et qu'est-ce qu'il prie? Il prie en particulier, verset 9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et Paul, il veut qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour vivre une vie chrétienne qui est digne de Dieu, pour progresser, pour maturer dans la foi. Alors Paul prie qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour vivre la vie chrétienne comme Dieu veut. Alors ce mot « remplir » qui arrive là en verset 9, c'est très intéressant. Ce mot « remplir » va être un mot-clé pour toute la lettre. C'est un peu comme d'ailleurs le film « Retour vers le futur », peut-être vous connaissez. Le générique du début, il y a plein d'horloges. On vous montre plein d'horloges, à une certaine heure je crois. Et plein d'horloges. Eh bien, on ne sait pas, si vous regardez le film pour la première fois, vous ne savez pas exactement de quoi il va s'agir, mais finalement tout le film va traiter le temps, voyager dans le temps, retour vers le futur. Et donc ces horloges pointent vers le thème général. Et ici c'est la même chose, ce mot remplir, remplir de la connaissance, eh bien c'est ce qui va marquer toute cette épître. Parce que faut savoir qu'à ce moment, à l'église de Colosse, ils étaient menacés par des doctrines, des idées un peu bizarres. Il y avait quelques illuminés dans l'église qui disaient aux chrétiens, là, il vous manque quelque chose. Jésus-Christ, c'est bien, mais il vous manque quelque chose. Si vraiment vous voulez être rempli, si vraiment vous voulez être comblé, si vraiment vous voulez connaître une plénitude de la foi, eh bien, il faut que, comme nous, il faut passer par des pratiques ésotériques, des pratiques mystiques, religieuses, des connaissances secrètes que nous pouvons vous donner. Ce genre de langage spirituel n'est pas étrange à travers les siècles. Souvent, voilà, les gens ont proposé une spiritualité qui passe par l'ésotérisme, le mysticisme, des connaissances dont il faut être initié. Et c'était un peu ce qui se passait à Colosse. Et donc Paul écrit cette lettre pour corriger ces idées, et pour que les Colossiens ne soient pas emportés par les mauvaises doctrines. Alors c'est pour ça que vous comprenez maintenant sa prière. Il va mieux expliquer dans les chapitres qui vont venir, que nous allons étudier. Mais pour l'instant, il dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Pas de la plénitude et du remplissage que vous proposent les faux docteurs, mais le vrai. Il veut qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, nous en avons déjà parlé ce matin. Jean-Philippe a cité ce verset en Jean 6. C'est quoi la volonté de Dieu pour nous? La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions connaître Jésus-Christ. C'est que nous placions notre foi en lui. C'est que nous connaissions la vie qu'il a pour nous. La volonté de Dieu, c'est cette volonté qui traverse les âges, sa volonté pour l'univers, pour le cosmos, pour nous, que Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit le premier, que nous puissions le connaître, comme nous avons chanté en cours ce matin. Et ça, c'est sa prière pour les Colossiens, qu'ils ne soient pas détournés par d'autres connaissances bizarres, mais qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu. Après, Dieu nous donne une sagesse, une intelligence pour méditer sa parole, pour méditer sur la personne de Jésus-Christ et voir comment cela nous transforme jour après jour. Donc voilà le cœur de sa prière, il prie qu'il soit rempli de la connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Jésus-Christ, et de Dieu et de Jésus-Christ, pour marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Et ça, c'est la suite de sa prière. Et si vous regardez bien ces versets, versets 10, 11 et 12, Paul va donner quatre marques d'une vie, une vie remplie, une vie qui grandit, une vie qui porte du fruit, une vie qui plaît à Dieu. Et les quatre marques, c'est là où la phrase devient très longue, mais il faut suivre. Les quatre marques, c'est pour marcher d'une vie, d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Il y a quatre choses. C'est porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est croître par la connaissance de Dieu. C'est être fortifié, verset 11, à tous égards par sa puissance pour tenir dans le temps lorsqu'il y a des épreuves, pour être patient et persévérant. Fortifié par sa puissance. Et enfin, verset 12, en rendant grâce à Dieu le Père qui a fait tout cela. Donc, quatre marques d'une vie qui grandit, qui plaît à Dieu, c'est le service, porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, c'est la connaissance de Dieu, grandir dans cette connaissance de Dieu, la patience, c'est-à-dire être fortifié pour tenir. Jean-Philippe en a parlé, et il se sentait épuisé, mais ce verset en Corinthiens l'a convaincu que ça, c'est la puissance venait de Dieu et qu'il pouvait même agir dans la faiblesse et ça l'a permis de tenir pendant le voyage. Ça c'est ce verset à l'œuvre. Donc le service, la connaissance, la patience et enfin la reconnaissance. Voilà quatre traits, quatre marques d'une vie qui plaît à Dieu. Alors quand je vous lis ces versets avec ces phrases à rallonge, peut-être vous dites, oula, je suis déjà un peu perdu. Ça fait beaucoup de choses à gérer dans ma vie. Déjà, j'essaie de connaître Dieu, mais si on me dit qu'il faut que je porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, qu'il faut que je croisse dans la connaissance de Dieu, qu'il faut que je sois fortifié par sa puissance et que je sois constamment en train de rendre grâce, comment je fais ça tous les jours? Comment j'y pense tous les jours? Alors peut-être ça peut vous aider. Pensez au moment lorsqu'on vous a appris à conduire une voiture. Quelqu'un vous a dit peut-être, ok, voilà, c'est facile, vous mettez un pied sur l'embrayage et le frein, un autre pied sur l'accélérateur, une main à la vitesse et une main sur le volant, et puis vous, avec vos yeux, vous gérez le devant et derrière, ok, vous faites tout ça à la fois, et on roule tranquillement. Et le jeune, il dit, ah, moi, je peux pas faire tout ça à la fois. Mais pour conduire une voiture, il faut faire tout ça à la fois. On peut pas dire, maintenant, cette semaine, je vais juste faire l'accélération, je néglige le freinage et les rétroviseurs, et comme ça je vais grandir non, il faut tout faire à la fois. Mais la plupart de vous savez conduire une voiture, vous avez appris, vous avez grandi, et maintenant vous êtes même en mesure d'apprendre à d'autres, à des jeunes, peut-être vos enfants, à conduire une voiture. Et c'est ça la vie chrétienne. Il y a toutes ces choses, mais avec le temps, avec la maturité chrétienne, avec la croissance, ces choses deviennent un peu plus en plus naturelles et automatiques, puisque Dieu habite en nous et qu'il nous les rend possibles. Et puis, nous pouvons, à notre tour, encourager d'autres à le faire, comme Paul a fait pour Épaphras, et comme Épaphras a fait pour les Colossiens, et comme les Colossiens ont fait pour d'autres, jusqu'à ce que l'Évangile arrive jusqu'à Toulouse. Mais c'est bien de rappeler que toutes ces choses vont ensemble. Porter des fruits, croître par la connaissance de Dieu, être fortifié par sa puissance, et rendre grâce. Vous pouvez, si vous essayez un sans les autres, un problème, tout comme la voiture. Par exemple, si vous essayez de faire toutes sortes de bonnes œuvres sans croître dans la connaissance de Dieu, vous risquez de faire des œuvres que Dieu ne veut même pas parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et c'est le cas de beaucoup de religions. Une bonne œuvre, c'est pas allumer une cierge, c'est pas faire un pèlerinage. Une bonne œuvre, c'est plutôt répondre avec amour et douceur à un conjoint, à des enfants à la fin d'une journée fatigante. Une bonne œuvre, c'est rendre service à quelqu'un dans l'église que vous voyez en avoir besoin. Une bonne œuvre, c'est animer un camp sport et foi. Vous allez prendre ces enfants et leur donner un temps de sport, mais aussi leur pointer vers Dieu et la vie éternelle en lui. Ou bien c'est partir à Wolo pour apporter l'évangile là-bas. Voilà des fruits que Dieu veut des chrétiens et que vous portez ici déjà dans l'église beaucoup. Donc, Voilà, la connaissance de Dieu. Et dans toutes ces choses, vous avez besoin d'une connaissance de Dieu pour bien les faire. Ou bien vous pouvez croître dans une connaissance de Dieu. Vous pouvez dire ça, c'est je fais que ça. Je lis des livres de théologie et c'est la chose qui m'intéresse. Mais si vous faites que ça et qu'il n'y a pas une vie de fruits, de pratiques, eh bien vous allez finir orgueilleux ou déconnecté de la réalité. Ou si vous essayez de servir, de porter beaucoup de fruits sans être fortifié par la puissance de Dieu, vous allez vous décourager dans le temps, vous allez vous épuiser si vous comptez juste sur vous-même. Donc vous voyez toutes ces choses comme une voiture, ils vont ensemble. Et c'est pour ça que Paul les enchaîne. Mais il commence son épître avec ses vœux de croissance pour que individuellement, chaque Colossien puisse grandir, croître, maturer dans sa foi pour ensuite continuer cette œuvre de faire propager l'évangile dans le monde entier. Et cette église a besoin, cette église à Colosse, comme cette église à Toulouse, a besoin de vivre cette croissance pour ne pas être déstabilisée dans des idées qui circulent en permanence, des fausses doctrines. Ces Colossiens ont besoin de grandir dans leur foi pour que l'évangile continue à progresser. Parce que si ces Colossiens ne sont pas enracinés dans leur foi, ils vont pas pouvoir être différents du monde, ils vont pas pouvoir vivre cette foi, cet amour, cette espérance qui porte du fruit dans le monde entier. Et maintenant, pour terminer, soyons clairs, toute cette croissance vient de Dieu. Genre, même la voiture, finalement, même si vous conduisez une voiture, c'est pas votre force qui fait avancer la voiture, c'est la moteur de la voiture qui a fait tout le travail. Ça c'est Renault, ça c'est Peugeot qui a fait ça, c'est pas vous qui faites avancer une voiture. De la même manière, on sert Dieu, on porte du fruit pour lui, mais cette croissance vient de lui. Et la preuve que nous avons compris cela, c'est la reconnaissance. Et c'est pour ça que Paul termine, comme il avait commencé, sur rendre grâce. Il avait commencé en verset 3, en disant, nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour le progrès de l'évangile jusqu'à Colosse. Et puis en verset 12, il dit, vous aussi, ça fait partie de la vie chrétienne, et c'est le point qui résume presque tout, en rendant grâce à Dieu, qui vous a rendu capable de faire toutes ces choses, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Vous voyez, il dit, c'est Dieu qui vous a rendu capable de grandir. C'est Dieu qui vous a transportés dans son royaume. Donc ce n'est pas notre croissance, ce n'est pas nos efforts qui font mériter le salut, qui font mériter la rédemption. Et ça, c'est la grande différence entre l'évangile et toutes les religions. Les religions disent, vous devez croître dans votre foi, dans votre religion, pour éventuellement être béni de Dieu, éventuellement hériter le salut. Mais dans l'évangile, c'est tout le contraire. Il vous a transporté dans son royaume. Il vous a rendu capable, et maintenant vous pouvez grandir, vous pouvez croître. Est-ce que vous connaissez Oliver Twist? Oliver était un orphelin. Il était récupéré par une bande de pickpockets. Et donc sa vie était destinée à devenir un voleur, parce qu'il avait personne, c'était sa seule famille. Et donc il était esclave un peu de cette bande, et il volait comme eux. Mais puis il a été délivré par une famille qu'il a vue, qui a eu pitié de lui. Cette famille l'a aimé, cette famille a même payé ses vols, cette famille l'a accueilli chez elle. Et il a goûté autre chose. Il a goûté une vie de lumière, pas cette vie de ténèbres. Il a goûté un amour qui l'a transformé. Et cette nouvelle vie, cet amour qui l'a sorti de là, ça l'a donné envie de grandir, d'être transformé, de vivre autrement. Parce qu'on apprend à la fin de l'histoire, très intéressant, que Oliver Twist, il a droit à un grand héritage. Il est héritier d'un riche. Pourvu qu'il ne finisse pas voyou. Et son demi-frère, qui veut récupérer l'héritage, c'est lui qui l'a mis dans la bande de pickpocket pour qu'il termine voyou, pour qu'il touche l'héritage. Et donc, tout ça, Oliver ne savait pas. Mais, cette famille l'a délivré. Et finalement, il devient héritier. Donc, il est rendu capable d'être héritier parce que il a été aimé. Il a été sorti d'un milieu pour être accueilli dans un autre. Et ça, c'est aussi, ça, c'est l'évangile, ça, c'est notre parcours, c'est notre vie. Lorsque vous avez compris le prix que Jésus a payé pour vous avoir, pour vous sortir des ténèbres, pour vous sortir de l'esclavage, pour vous sortir d'une vie de mal, pour l'accueillir dans sa famille, dans son royaume, lorsque vous voyez ce qu'il a payé pour vous à la croix, pour vous délivrer, pour vous rendre capable, pour faire de vous un héritier, comme Oliver Twist, eh bien, forcément, vous allez vouloir grandir, progresser dans votre foi. Vous allez vouloir plaire à ce Dieu qui vous a tant aimé. Vous allez vouloir être digne de l'héritage qui vous est déjà promis. C'est ainsi que se produit la croissance personnelle, la croissance individuelle. Et cette croissance, pour chacun de nous, va produire une croissance encore de notre Église et de l'Évangile dans ce monde. Qu'il soit ainsi, je vous invite à terminer dans la prière. Seigneur, merci pour cette possibilité d'avoir une relation avec toi. Merci pour cette possibilité de te connaître parce que tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. Tu nous as montré ta volonté, notamment à la croix, de nous aimer et de nous avoir. Et puisque nous avons la possibilité d'avoir une relation avec toi, qui veut une relation, une amitié superficielle? Non, nous voulons, ce serait dommage que cette relation stagne, ce serait dommage que cette relation reste superficielle. Et je prie que chacun ici ce matin puisse grandir dans sa connaissance de toi. Peut-être quelqu'un ici te connaît très très peu et nous te prions qu'il puisse venir à Jésus-Christ, mesurer l'amour et l'espérance que nous avons en lui grâce à sa résurrection. Et pour ceux qui te connaissent, nous te prions que chaque jour, chaque semaine, ensemble, nous pouvons grandir notre foi. Merci pour Jean-Philippe qui nous encourage encore ce matin par son baptême à aller de l'avant. Et tous, nous voulons vivre ça. Qu'il soit ainsi par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.